Isabelle Fontaine, salut.
Bon matin.
On revient sur le budget de fonctionnement à la ville de Sherbrooke.
Ben oui, une fin de semaine plutôt calme là, après la crisette de la fin de la semaine dernière. Finalement, ils ont, semble-t-il, réussi à travailler. On a eu quelques commentaires qui ont filtré à travers les portes closes hein, parce que ça se passe en huis clos, qui est une pratique qui n'est pas nécessairement répandue dans toutes les villes au Québec. Là, c'est un choix... que le conseil municipal fait de tenir ces discussions à huis clos. Je ne vais pas nécessairement revenir là-dessus, même si des fois, je pense que peut-être qu'on devrait se questionner sur ça. Mais effectivement, on dirait que le calme est revenu puis qu'ils ont réussi à avoir des discussions constructives. Moi, ce qui m'inquiète, par contre, c'est les commentaires du maire là, concernant la hausse de taxes. T'sais, on nous a dit que, bon, on ne devait pas s'attendre à un gel de taxes. L'an dernier, c'était quand même un exploit. Par contre, il nous dit même que son engagement de maintenir ça au niveau de l'indice des prix à consommation pourrait être repris. Puis j'ai pas pu m'empêcher de penser à... Vous rappelez-vous l'an dernier, quand Valérie Plante a pris les rênes de la ville de Montréal, elle s'était engagée à maintenir la taxe en dessous de l'IPC. Elle est arrivée avec un budget où, effectivement, la taxe foncière restait en dessous du niveau de l'indice des prix à consommation. Par contre, elle augmentait substantiellement les autres taxes. Là, on parle la taxe de l'eau, elle, dans son cas, puis les taxes d'arrondissement. Bon, dans notre cas, ça peut être l'eau, la gestion des matières résiduelles, les fosses septiques. Donc, tu sais, regardons notre compte de taxes dans un ensemble, puis voyons voir comment ils vont nous expliquer ça. Mais moi, ça m'a beaucoup inquiété. Le maire Lucie fera peut-être un Valérie Plante de lui-même cette année.
Si on parle de l'IPC, moi, je me fais à Montréal cette année 1,7. Fait que je m'attends à voir quelque chose à 1,7. C'est ça, l'IPC.
Oui, puis globalement, pas juste la taxe foncière.
Mm-hmm. Sauf que...
C'est toute la même poche. Hein?
J'ai des doutes. Je te le dis, moi, personnellement, j'y crois pas. Je trouve ça impossible. Après une année de gel où t'as laissé bien des affaires en suspens puis t'as limité pas mal, j'ai de la misère à y croire. Sauf que là, tu y vas-tu à 2? 2,5?
Vas-tu... Oui, est-ce que tu rattrapes la hausse que t'as pas donné l'an dernier? Ça pourrait être une façon de le justifier. En fait, tout va être dans la communication aussi.
Et il y a un chiffre que je trouve dangereux. 3. Et je m'explique. Te rappelles-tu la critique principale de Steve Lucien en campagne électorale? Monsieur 12%.
Exact. Hein? Exact.
Le maire Sévigny qui avait haussé ses taxes en 4 ans. Là, il n'a pas fait ça d'un coup. Tu sais, la moyenne, tu fais ça. Tu regardes la moyenne, on l'a haussé à peu près 3% par année.
Tout à fait.
Vas-tu t'approcher du chiffre 3? Parce que tu vas te le faire mettre d'en face.
C'était
bien beau un gel en campagne électorale, ça paraît bien. Mais si par la suite, tu rattrapes la même vitesse de croisière qu'on avait avant...
T'sais, on marche tranquillement vers la prochaine élection. Ce que les gens vont se rappeler, c'est pas le gel de taxes de la première année, mais effectivement la progression sur l'ensemble du mandat. On verra où le maire nous amène avec ça. Hein. Puis il y a aussi marqué le coup avec la même revendication que celle des autres maires au Québec, c'est-à-dire avoir plus de moyens ou plus de mécanismes différents pour collecter. Il y a plus de sources de revenus. Je cherche mon mot.
Puis ça, je trouve ça, c'est légitime, mais en même temps, c'est particulier à Sherbrooke. Toi, tu as un avantage que les autres joueurs n'ont pas, tu as Hydro-Sherbrooke. Tu sais, t'as quand même un levier qui n'existe pas ailleurs. Fait je comprends la revendication, elle est légitime. En même temps, elle a un petit peu moins de poids ici qu'ailleurs.
Absolument.
Ils font quoi, vous pensez, M. Lucier, les gens qui n'en ont pas d'Hydro? Ça arrange autrement. Il y a ça aussi qui me chicote un peu. Sinon, tu nous parles là, ce matin du rapport de 13 agences fédérales américaines. On prévoit des changements climatiques qui auraient évidemment des impacts économiques.
Ça, c'est vraiment intéressant. Hein? Puis, by the way, c'est sorti vendredi à 2h de l'après-midi. Je vous rappelle que c'est Thanksgiving puis le Black Friday vendredi aux États-Unis. Donc, peut-être que la Maison-Blanche a voulu nous passer ça vite fait, mais c'est un rapport très intéressant. C'est des rapports qui avaient été commandés par le Congrès à tous les 3 ou 4 ans sur la situation des changements climatiques. Et là, ce qui est intéressant dans celui-là, c'est qu'on mesure vraiment les impacts économiques des changements climatiques, donc ce que ça pourrait avoir sur la production. Et ce qu'on dit, c'est que s'il n'y a pas d'actions drastiques qui sont prises du côté des États-Unis, on pourrait avoir une contraction de l'économie qui pourrait aller jusqu'à 10 % du PIB. Ça veut dire une réduction de du produit intérieur brut de 10 %. C'est 2 fois plus que ce qu'on a subi à la dernière crise économique en 2007 puis 2012. Donc, c'est vraiment important. Puis c'est drôle parce que c'est dans le contexte où Trump dit plutôt qu'il faut déréglementer ou enlever tout les cadres associés à la lutte contre les changements climatiques justement pour stimuler l'économie. Puis on parle pas, tu sais, évidemment, des feux en Californie en ce moment, puis de la crise des migrants avec laquelle Trump est pris, puis éventuellement les réfugiés climatiques.
Puis c'est assez facile de le croire parce que, pense-y, quand tu parles de changement climatique, là, tu vas cibler rapidement la côte est américaine, dont New York.
Exact.
T'sais, New York, Los Angeles, là, ben, je sais que Los Angeles est de l'autre bord, mais tu parles quand même de tes deux gros centres économiques aux États-Unis. Là. Imagine New York prise avec des problèmes récurrents d'inondations, de problèmes d'ouragan ou autres.
C'est un peu là-dessus que ça se base. T'sais, ils mesurent vraiment clairement avec des données très détaillées, mm-hmm, l'impact sur d'abord le commerce international. Tous ces événements climatiques extrêmes-là vont entraîner des problèmes d'approvisionnement, des usines qui ferment temporairement.
Des fermetures temporaires ou des fois prolongées. Là,
des disruptions, mm-hmm, des conséquences graves sur toute l'organisation économique. Mm-hmm. Et en plus, ils mesurent aussi les impacts sur l'agriculture, ce qu'on appelle la ceinture agricole dans le Midwest américain. Là, si la température augmente et que les conditions météo changent, il va y avoir une diminution drastique de la productivité qui pourrait se retrouver au niveau de avant les années 80. Aïe. Donc là, ça aussi, ça a des impacts importants dans des régions des États-Unis qui ont appuyé Trump aussi. Donc, ça sera intéressant à suivre.
On est en rentrée parlementaire au Québec cette semaine. Mais ce qu'on va jeter un coup d'œil, entre autres, aujourd'hui, c'est aussi du point de vue fédéral, parce que tu as le Bloc qui, finalement, semble s'être trouvé son chef.
On ne sait pas, la course n'est pas encore terminée, mais un clin d'œil à François Blanchette qui annoncera aujourd'hui officiellement, on s'y attendait, qu'il se lance à la chefferie du Bloc. Donc là, il doit ramasser, je pense, ses 500 signatures, un dépôt de 15 000 $. C'est quand même un défi important que je pense, lui, est en mesure de remplir, mais qui pourrait décourager d'autres candidats. C'est la meilleure chose qui peut arriver au Bloc, à mon avis, la candidature de François Blanchette dans le paysage politique actuellement. Un homme qui a déjà des bonnes relations avec le PQ, qui est nationaliste, qui est très articulé, qui a une certaine notoriété parce qu'il fait du commentaire politique. Il en a fait ici pendant un certain temps.
Oui.
Donc, c'est la meilleure chose qui peut arriver au Bloc. On verra, il y avait un candidat là, dans le comté de Portneuf, là, un militant qui avait annoncé qu'il voulait...
Un agriculteur, je pense.
Mm-hmm. Qui souhaitait peut-être se lancer dans la course en même temps. T'sais, pour quelqu'un qui n'est pas bien ancré, 500 signatures partout au Québec, puis 15 000 $ de dépôt, qui peut pas venir de ta poche, il faut que tu le ramasses en don.
Mets à la place des autres, là, ils vont y mettre des bâtons dans les roues. Hey, garde, écoute, mon ami. On peut-tu te trouver un petit poste, une job quelque part? On va te laisser ta voix, mais tu sais.
Ben, moi, je pense qu'il est tout à fait possible. J'imagine que François Blanchette va le contacter, qu'il va lui offrir sa circonscription pour qu'il soit candidat la prochaine fois. C'est une bonne façon d'entrer dans le parti aussi, de se positionner, l'appuyer. Mais une course à la direction rapide, un couronnement, ça permettrait au moins à François Blanchette de se positionner pour la prochaine année.
Y a-t-il un vide au Québec?
Bien, il y en a un. En fait, c'est drôle parce que ce nouveau gouvernement nationaliste de François Legault qui a fait des revendications, tu sais, il se positionne différemment du reste du Canada sur la lutte au changement climatique. Il y a la question des Franco-Ontariens qui est venue sur la table. Il y a ses revendications en matière d'immigration aussi. Il a besoin d'avoir une voix à Ottawa. Puis là, ben, on ne la voit pas nécessairement se dresser ailleurs qu'au Bloc québécois. Fait que je pense que c'est une fenêtre d'opportunité pour que le Bloc redevienne...
Et une réorientation un petit peu pour le Bloc en même
exactement,
temps.
Exactement. Redevienne un parti à la défense des intérêts du Québec plutôt qu'un parti purement indépendantiste, comme l'aurait souhaité Martine Ouellette. C'est une opportunité. On verra.
Son
le
plus gros défi
est grand.
Sera le charisme. Là. Puis, parce que je trouve que c'est un gars... Puis... Je l'assume totalement, là, c'est un gars intelligent, c'est un homme qui est posé. Je pense que c'est quelqu'un qui est capable de tenir les rênes du Bloc, ce qui n'est pas évident, là, on s'entend. Mais il y aura ce défi peut-être d'expression en public, d'être capable de... Peut-être, mais en même temps, bon, je regarde ses opposants.
Moi, je pense que c'est ça. Puis tu sais, ces années dans les médias leur ont servi. Puis pour l'avoir côtoyé à l'époque où il était ministre, je pense que cette capacité-là de rassembler aussi puis de porter un message constructif puis à l'écoute d'une majorité de Québécois. Là. Fait qu'il y a une opportunité. Est-ce qu'il sera capable de maintenir les 10 sièges? Il a peut-être réussir à aller en chercher 20.
Là.
On verra, mais...
Un an d'action, c'est pas long non plus. Là.
Non, c'est pas long.
Isabelle
On
Fontaine, merci
ça.
Beaucoup. À demain.
À demain.